Okapi Service, une émission au service des populations. Des questions, suggestions et problèmes qui vous touchent, ils sont au rendez-vous tous les jours du lundi au vendredi. Okapi Service, une adresse pour trouver solution à vos préoccupations. Okapi.
Bienvenue dans cette deuxième partie du magazine de la vie au quotidien, Okapi Service, consacré à la lutte contre le kidnapping, les enlèvements en République démocratique du Congo, particulièrement à Kinshasa, à bord des taxis catch. Les filles, jeunes filles, sont souvent victimes de cela. À l'est du pays, à Goma, dans le nord Kivu, il y a aussi des cas des enlèvements. Des bandes armées, des malfaiteurs s'organisent pour enlever les enfants, femmes et hommes, et puis ils exigent la rançon, voilà, et si vous n'amenez pas l'argent à temps, ils peuvent même tuer les victimes. On en parle dans cette émission, des questions et préoccupations, écrivez-nous à service@radiookapi.net. Nous avons en ligne Maître Gérard Lédy, avocat, près le barreau de Matete. Maître Gérard, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue dans cette émission Okapi Service. Que dit la loi congolaise par rapport au kidnapping?
Merci de la question. Le phénomène enlèvement dans le code pénal livre 2 n'est pas réglementé à proprement parler. L'enlèvement est un mode de perpétration de l'infraction qu'on appelle la détention illégale ou l'arrestation arbitraire. Donc c'est ça ce qui est consacré dans l'article 67 du Code pénal livre 2. En effet, le fait d'enlever, de faire enlever, de détenir ou de faire détenir une personne pendant un moment plus ou moins long est constitutif de l'infraction de la détention illégale ou de l'arrestation arbitraire. Donc le terme enlèvement, et c'est un des modes de perpétration de cette infraction qu'on appelle arrestation ou la détention illégale. Ça, c'est dans un premier temps. Mmh. À l'article 175 de la loi, 175 de la loi portant protection de l'enfant, c'est dans cette loi-là qu'il est prévu expressément l'infraction d'enlèvement des mineurs. Donc, nous avons, donc en faisant la combinaison de ces deux dispositions, nous pouvons dire pour les non-initiés, que l'enlèvement pour les adultes est prévu par l'article 67 du Code pénal livre 2 et l'enlèvement pour les mineurs est prévu par l'article 175 de la loi portant protection de l'enfant.
Bien. Alors prenons le cas de ce qui se passe à Kinshasa, à bord des taxis bus appelés catch. Les femmes, les jeunes filles sont enlevées. Vous entrez, voilà, je me rends par exemple à Victoire et en cours de route, on change d'itinéraire. Les vitres sont remontées rapidement et puis les portières bloquées. Et puis on vous sort un couteau, on vous menace, sortez l'argent rapidement, des menaces de mort. Et puis bon, voilà, la personne est dépouillée, on va la jeter quelque part. Donc, on va toujours parler de la détention arbitraire.
Oui, c'est la détention illégale ou l'arrestation arbitraire, dont les chefs de fait qui vous ont enlevé, dont le fait pour ces personnes de vous enlever, constitue donc cette prévention. Cette prévention peut être aggravée dans ces cas-ci lorsque la personne qui est enlevée a fait l'objet de tortures et l'infraction peut être punissable de plus de 5 ans jusqu'à 20 ans de servitude pénale. Et si cette personne qui est enlevée est victime de cas de mort, en ce moment-là, la personne qui commet cette infraction peut être punie à une peine de servitude pénale à perpétuité ou à la peine de mort.
Et on a appris qu'il y a certaines victimes qui sont même violées par ces malfaiteurs.
Oui. Dans ces cas-là, outre l'infraction d'arrestation ou de détention illégale, cette personne qui a enlevé une autre personne peut aussi être poursuivie du chef de l'infraction des viols ou des coups et blessures. Et à ce moment-là, ça sera un cas de pluralité d'infractions dans ce sens-là. Et cela également prévu par le Code pénal congolais.
Voilà, mais on a appris à Kinshasa, par exemple, la plupart des victimes de ces enlèvements ne veulent pas porter plainte ou ne veulent pas du tout aller devant les instances judiciaires.
Oui, c'est la raison pour laquelle nous sommes là, en faisant la vulgarisation, pour que nous puissions les aider à dénoncer ce cas-là. Parce qu'il est certes difficile d'identifier les auteurs de telles infractions, mais la loi a donné la possibilité aux victimes de déposer les plaintes contre l'inconnu par rapport au lieu de perpétration de ces infractions pour permettre aux autorités qui assurent la sécurité des personnes et de leurs biens de tenter de poursuivre ces malfrats.
Et quelle est la procédure à suivre?
La procédure à suivre, elle est la même. D'ailleurs, lorsqu'il s'agit des auteurs des infractions qui ne sont pas connues, la personne qui est victime est obligée de saisir les parquets en déposant une plainte contre l'inconnu ou contre des inconnus, en faisant voir à l'autorité qui est saisie qu'elle a été victime à tel endroit de telle ou telle autre infraction. C'est pour permettre à l'autorité judiciaire d'essayer de poursuivre des personnes qui, dans la plupart des cas, sont des inconnus.
Voilà. Mais beaucoup de victimes se disent, bon, la justice, ça prendra du temps, ça va demander de moyens. Et puis, bon, ils se disent, bon, on laisse tomber la personne. Ces malfaiteurs, d'ailleurs, sont partis avec tous mes biens. Bon, c'est décourage.
Oui, c'est comme ça que nous avons la politique gouvernementale. Parce que le problème de la sécurité, ce n'est pas un problème qui relève de la compétence des personnes qui sont victimes. Donc l'État doit nécessairement redynamiser les services. Parce que ce ne sont pas des services qui manquent. Nous avons les services de sécurité, nous avons l'ANR, les services de sécurité qui opèrent très souvent la nuit. Parce que ce genre d'infractions sont commises la nuit. Et la nuit, les individus ne peuvent pas eux-mêmes faire face à ce genre de situations. Nous avons les services de sécurité qui opèrent la nuit, comme les jours, qui doivent assumer leur rôle pour mettre hors d'état de nuire ce genre de personnes.
Alors, on se rappelle qu'à un certain moment, certains malfaiteurs étaient, la police a été arrivée à mettre la main sur ces malfaiteurs-là, mais après, bon, s'il n'y a pas de plainte, ces personnes seront relâchées.
Oui, c'est cela l'état de notre législation. Parce qu'il est prévu lorsqu'une personne est poursuivie en cas de flagrance, les victimes ou les prétendues victimes doivent immédiatement dénoncer, venir en déposant plainte pour venir suivre les cas de ces personnes-là. Mais dans la plupart des cas, quand on met la main sur ces individus, on met la main sur ces individus au moment où ils ne sont pas en pleine opération, de sorte qu'ils se présentent eux-mêmes sans victime valable. Et dans ce cas-là, la loi a prévu que ces personnes-là soient entendues en ayant un certain délai. Lorsque ce délai est dépassé, ces personnes risquent d'être dans un cas d'une détention régulière. C'est comme ça que dans la plupart des cas, ce n'est pas dans la volonté délibérée des autorités judiciaires, parce que en droit, il y a la forme et le fond. Lorsque la personne n'a pas été arrêtée régulièrement en suivant les formes requises, la loi exige que ces personnes-là soient relaxées, quand bien même que l'infraction sur le fond peut être établie. Donc c'est comme ça qu'il faut vulgariser les victimes. Chaque fois qu'elles sont victimes de ce genre de situation, qu'elles puissent immédiatement, après l'arrestation de ces malfrats, ils doivent être sensibilisés à déposer plainte.
Voilà, ils doivent être sensibilisés à déposer plainte. Comment lutter contre les kidnappings en RDC? Des questions et préoccupations, eh bien, écrivez-nous à service@radioukapi.net. Vous avez également la possibilité de poster vos questions et préoccupations sur la page Facebook de l'émission Okapi Service.
Radio Okapi. Okapi Service. Jeudi, Daniel Kachama.
Okapi. Nous avons en ligne Katombe depuis Kalemi. Bonjour.
Bonjour, monsieur Jody.
On vous écoute.
Bonjour aux auditeurs de la radio Capi.
Quelle est votre préoccupation?
Merci beaucoup pour la parole m'accordée. En fait, par rapport au kidnapping qui se passe actuellement dans plusieurs villes de la RDC, moi, je suis en train de m'inquiéter pourquoi d'abord il y a un problème de vivre dans un pays comme le nôtre où les gouvernements, les autorités des gouvernements ne savent pas qui entre dans ce pays. Et qui habite quel quartier, il fait quoi, combien de véhicules sont dans la ville et combien de véhicules sont en ligne. Et lorsque il y a ces désordres, on a même du mal à identifier quels sont les chauffeurs qui sont dans les arrêts pour bien les identifier. C'est ainsi que moi j'avais à suggérer si on peut procéder aux identifications des véhicules et les propriétaires et même les chauffeurs qui font les transports en commun. Ça c'est première des suggestions. Aussi, si le gouvernement par exemple mettait les moyens, il doit investir dans les moyens de transport. En investissant dans les moyens de transport, le gouvernement doit être capable de payer les bus qui peut mettre dans les arrêts, les bus qui vont faire les transports en commun, parce que ces chauffeurs qui vont opérer avec ces bus, ils seront bien reconnus par les gouvernements. Et lorsque les privés amènent leurs véhicules dans les arrêts, à ce moment-là, les propriétaires doivent être identifiés et en cas de kidnapping, on sait c'est le véhicule tel qui a opéré dans tel axe, dans telle ligne. Et la police aussi doit être en activité. Et si vous remarquez, comme ici chez nous, vous pouvez constater que les polices de circulation routière ne font presque rien et les agents de renseignement sont absents dans le terrain. On ne sait pas qui fait quoi, qui identifie les gens. C'est vraiment ce que j'avais à commenter dans ce sujet vital pour la vie. Puisque même si chez nous, c'était les enfants qui se perdaient, qui kidnappaient, mais aujourd'hui, il y a même des adultes qui disparaissent comme ça. On ne sait pas comment ça prend avec ce pays. Voilà, M. Jody.
Bien, merci. Nestor, vous êtes à Kananga. Bonjour.
Bonjour, M. Jody. Bonjour à tous les nombreux auditeurs de la Radio Capi.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport au phénomène kidnapping, enlèvement en République démocratique du Congo?
Bon, merci un peu encore pour les choix de la thématique. C'est un comportement ou bien ce sont des actes ignobles que nous condamnons avec la dernière énergie. Et pour mettre fin à cela, nous avons suggéré à ce que le gouvernement puisse renforcer les mesures sécuritaires partout. Vous voyez ici, comme sur la ville de Kananga, la police doit être déployée dans tous les coins et recoins de la ville. Et aussi, pour parler de tout le pays, on doit dire que la police devra être déployée partout pour renforcer un peu cette mesure-là. Parce que nous devons encore dire que ces gens-là qui opèrent ou bien qui commettent ces bavures résident dans le même quartier avec les paisibles citoyens. Alors, c'est aussi un devoir des citoyens de dénoncer n'importe qui doit un peu se lancer à ces actes-là. Parce que ces gens-là ne vivent pas ailleurs, ils vivent dans le monde actuel et ça, nous devons vraiment les déplorer ou bien les dénoncer auprès des autorités compétentes pour qu'ils soient déférés devant les juridictions compétentes. Parce que, pour donner même un exemple, il n'y a pas une semaine, dans mon quartier, un taximen a été victime des viols de sa moto par des inconnus.
Des viols de... Vous voulez parler du vol de sa moto?
Ah oui, il a été victime du vol de sa moto. Donc, il avait transporté deux personnes sur sa moto vers Tchikaji. Pour bien ceux-là qui connaissent bien la vie de Kananga, Tchikaji, c'est là où il y a la morgue même. Alors, arrivant quelque part là, les gens lui disent que non, vous pouvez nous installer ici. Après, bon, ils ont appliqué, je sais pas moi, des gris-gris, et ils ont pris la moto. Après quelques instants, le monsieur s'est rétabli, dit « Oh !» Mais c'était vraiment trop tard.
Merci, Ngalamono, mais ça, bon, ça c'est une autre affaire, c'était une affaire des gris-gris, bon, des vols de moto. Merci d'avoir appelé. Maître Gérard, vous avez suivi les différentes préoccupations des auditeurs. À vous la parole.
Oui, merci pour toutes vos préoccupations. La dénonciation de la part de la population est importante, parce que dans la mesure où les auditeurs ont raison, parce que la plupart des gens qui commettent ces bévues, parfois sont connus même de nos populations. Mais pour des raisons inavouées, elles n'arrivent pas, la population, à les dénoncer. Je crois que c'est un des remèdes pour mettre fin également ou aider la population ou la politique du gouvernement à lutter contre ces phénomènes d'enlèvement. En ce qui concerne les chauffeurs des taxis et des motos, De la même manière que le gouvernement cherche à identifier ces chauffeurs les jours, le gouvernement doit aussi être à même de les faire la nuit. Parce que la plupart de ces enlèvements sont commis la nuit. Et qu'est-ce que font les services de sécurité la nuit? Que font la police et l'armée pendant la nuit? Donc on peut bel et bien identifier, parce que il ne suffit pas seulement de demander des contributions de la part des chauffeurs dans au niveau des arrêts, mais ils peuvent les faire aussi la nuit. La nuit, on peut chercher à identifier tous les véhicules comme toutes les motos qui opèrent la nuit et qui travaillent pendant la nuit. Je crois que ça peut aussi être un des remèdes face à ces phénomènes d'enlèvement de la population.
Bien, Marius est à Colésie. Bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
On vous écoute, Marius. Quelle est votre préoccupation?
Ma préoccupation est la suivante. En tout cas, je pense que les autorités qui sont en place, tout le monde ici, que les députés, provinciaux ainsi que nationaux, étaient votés par des vivants et non par des décédés. Ils ont une très grande responsabilité devant Dieu et l'histoire de garder la population ainsi que leur bien. C'est ça surtout les grandes tâches qu'ils exécutent. Alors, moi, je pense que tout ce malfroid-là, ils ont le système que nous appelons ici dans notre chère province et dans le rural de Lalaba, système de parapluie. Ils opèrent, ils sont encadrés, soit par des hommes en uniforme, soit aussi par quelques autorités. Puisque s'ils opèrent, même si vous les appréhendez, les amenez à la police, c'est qu'on sort. Deux à trois jours, on les libère facilement et ils continuent toujours à opérer. Alors comment est-ce qu'il y a de tels comportements devraient prendre fin? L'État doit prendre ses responsabilités. Même ici dans la province du Lualaba, en tout cas, ça se passe de temps à l'autre. Vous amenez quelqu'un à la police et puis on le libère comme ça sans condition. Ils ont été toujours protégés par les autorités.
Oui, Marius, ils ont toujours été protégés par les autorités. Merci de votre intervention. Des questions et préoccupations. Nous parlons aujourd'hui de comment lutter contre le kidnapping en RDC. Appelez-nous. Non, n'appelez pas. Écrivez-nous plutôt à service@radiocapi.net. Vous avez également la possibilité de poster vos questions et préoccupations sur la page Facebook de l'émission au Capi Service.
Les Nations Unies célèbrent ses 75 ans d'existence. 75 ans d'efforts inlassables pour la réalisation d'un monde meilleur. En 2020, quelle évaluation les peuples du monde peuvent faire pour l'idéal de l'ONU? Quelle est la contribution des acteurs politiques, économiques et culturels congolais à la construction de cette œuvre humaine? La Radio de la Paix vous propose des émissions spéciales à l'occasion des 75 ans des Nations Unies. Retrouvez-nous sur nos antennes, ensemble avec la famille de l'ONU.
Comment lutter contre le kidnapping en République démocratique du Congo? Bien, Maître Gérard, vous avez suivi les auditeurs tout à l'heure. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire?
Oui, en réaction à ce que les auditeurs venaient de dire, qu'il y a certaines autorités qui sont complices par rapport à l'insécurité que vit la population. Je voudrais dire que les autorités sont en train, donc ce sont des nouvelles autorités qui viennent à peine d'être mises en place. Il faut leur donner du temps, mais ce que nous pouvons suggérer à ces autorités, de faire des états généraux sur la sécurité de la population et de leurs biens. Parce que avec tous les événements qui se passent dans les pays, nous sommes en train de vivre une incapacité de la part des autorités à assurer la sécurité de la population des Arabiens. Et partout en République, ce n'est pas seulement à Kinshasa, parce que la sécurité ne se limite pas, l'insécurité ne se limite pas seulement au niveau des enlèvements par les taxis et les motos, mais nous voyons même l'est du pays, les autorités ne sont pas encore à même d'assurer la protection de la population. De quoi que les autorités qui nous suivent doivent tout faire pour convoquer les États généraux sur la sécurité et prendre les dispositions qu'il faut pour que la population soit, la population et ses biens soient en sécurité.
En parlant de l'Est, à Goma par exemple, ou dans certaines régions du Nord Kivu, ces bandits opèrent même en bande, ils ont des informations sur les victimes, et après ils enlèvent les enfants à l'école, ils enlèvent des femmes, tout ça, et puis on vous appelle pour vous mettre la pression psychologique, donner l'argent d'ici demain, telle heure, si vous ne donnez pas l'argent, eh bien on va tuer la personne, et parfois ils exécutent les gens.
Vous avez tout à raison, ça devient du commerce. Et comment les autorités militaires et policières ne sont pas à même de mettre hors état de nuire ce genre de personnes, alors que cela rentre dans leurs attributions. C'est comme ça que nous disons, et ce n'est pas quand même normal qu'un enfant qui se lève un matin pour aller passer l'examen des TENAPIP soit enlevé, et qu'on puisse même tenter de violer les filles qui doivent aller à l'école, alors que tout le monde sait que les enfants devaient être en sécurité parce qu'ils devaient passer les examens. Pourquoi l'autorité n'a pas pris les mesures qu'il faut pour mettre? Donc nous voulons demander aux autorités qui sont en place de revoir un peu la mise en place des anciennes autorités, surtout du côté de l'Est, du côté de Kisangani, qui ont fait longtemps à leur poste sans être en mesure d'assurer la sécurité de la population. C'est une faillite. On ne doit pas garder au même poste les autorités qui ne sont pas à même d'assurer la sécurité de la population et de leurs biens.
Alors, si les victimes n'arrivent pas à dénoncer ou à saisir les instances judiciaires parce qu'elles sont traumatisées ou elles en ont marre et veulent pas suivre la procédure judiciaire parce qu'elle prend beaucoup de temps, est-ce qu'il y a d'autres personnes, l'entourage, la famille, est-ce qu'il n'y a pas d'autres personnes qui peuvent porter plainte par rapport à ces genres de situations?
Oui, de toutes les façons, parce que la plainte, elle ne peut pas seulement émaner de la personne qui est victime. Il y a ce qu'on appelle aussi en droit pénal la dénonciation. La dénonciation peut être faite par tout individu qui est au courant d'une situation qui cause préjudice à autrui et qu'il peut également porter ça à la connaissance de la justice. Et c'est le cas d'une dénonciation et cela est également prévu par la procédure pénale congolaise.
Voilà, mais par exemple, il y a l'association pour l'accès à la justice, la CAJE, qui a dénoncé cela. Et à partir de cette dénonciation, est-ce qu'on ne peut pas déclencher une procédure?
Oui, c'est ce que nous allons nous fustigeons de temps en temps les comportements des autorités judiciaires, parce que nos autorités judiciaires doivent savoir qu'ils ne sont pas là pour être pour s'asseoir dans leur bureau. Ils ne sont pas là pour attendre seulement les plaintes écrites de la part des victimes. Ils ont pour entre autres pour mission de rechercher les infractions. Mais que font les parquets de notre République? Que font les substituts du procureur? Que font les procureurs de la République dans notre pays? Mais ils sont là aussi pour rechercher les infractions. Que font les OPJ, les IPJ? Mais les travailleurs, ce sont les yeux et les oreilles de l'officier du ministère public. Leur rôle est de chercher les infractions. Mais dans la plupart des cas, ils ne sont pas à même de réaliser leur mission. Ils sont dans leur bureau au lieu de chercher les infractions, faire en sorte que ces infractions soient punies. Ils sont là qui sont en train d'attendre les victimes qui, parfois, par suite des représailles, ne veulent pas porter plainte.
Voilà. Alors, quelle est la solution, maître, par rapport à cette difficulté-là, surtout par rapport aux victimes qui ne veulent pas porter plainte et puis les parquets qui ne se saisissent pas d'office de ces infractions?
La solution, il faut d'abord sensibiliser les organes du parquet. Il faut sensibiliser les OPJ et les inspecteurs de police judiciaire dans des points où il y a cette insécurité pour savoir qu'ils sont là au service de l'État pour rien, non pas pour rien, c'est pour qu'ils puissent rendre ces services et ce service doit être efficace. Ça, c'est la première solution. La deuxième solution, s'ils n'arrivent pas à être à niveau, carrément les remplacer au profit des personnes qui peuvent assurer la sécurité des personnes et de leurs biens. Parce que la sécurité de la population est un objectif, c'est un impératif par rapport à la politique gouvernementale. Lorsque la politique gouvernementale n'est pas à même d'assurer la sécurité des personnes et de leurs biens, l'importance du gouvernement, ce n'est pas seulement les pouvoirs politiques. Dans les pouvoirs politiques, il y a également la sécurité de la population.
Bien, nous allons accueillir Léni depuis Kisangani et puis Maître Mukuna depuis Kananga. Léni, vous êtes à Kisangani, bonjour. Lénine n'est plus là. Maître Mukuna, vous êtes à Kananga. Bonjour.
Bonjour, monsieur Joly.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport au phénomène kidnapping?
Oui, le phénomène d'enlèvement, là, il avait commenté sur la page Facebook que était même chez nous ici à Kananga. Il y avait dans les temps, on l'appelait le phénomène de Chine à Rambo. C'est-à-dire, les hommes inconnus marchaient avec la voiture à bande noire comme ça et enlevaient le garçon. Et pourtant, j'ai vu même dans mon territoire, il y avait même les gens qui marchaient avec, il y avait un système d'injection, on marchait avec les seringues intoxiquées. Lorsqu'on t'attrape pendant 22 heures, soit 23 heures, on t'injecte ces seringues-là, tu deviens vraiment très fatigué et on part avec toi dans une destination qui est vraiment inconnue. Maintenant, c'est ce que je dis un peu à l'État. Tout ça, c'est par manque de sécurité. L'État devrait mettre les services de renseignement dans tous les coins, dans tous les territoires nationaux, comme les zaneurs, les policiers, et on peut encore renforcer le système de patrie qui est chez nos policiers. En tout cas, ça donne quand même une bonne méthode pour avoir la bonne sécurité dans notre province.
Merci, Maître Mulumba. Maître Gérard, vous avez la parole.
Oui, merci. Et nous sommes tout à fait d'accord avec l'intervention de Maître Mukuna. L'État doit renforcer les services de sécurité et mettre les personnes compétentes pour pouvoir assurer la sécurité des personnes et de leurs biens. Je voudrais également ajouter, parce qu'au-delà des services de sécurité, l'État peut également sensibiliser la population. Nous avons les sportifs, nous avons les jeunes qui sont vaillants, qui peuvent également se prendre en charge. L'État peut mettre à leur disposition les moyens pour qu'ils puissent veiller dans n'importe quel coin du pays pour mettre fin à ce genre d'insécurité. Parce que ces gens qui attaquent, ils n'ont pas les monopoles de la violence. Nous avons également une population jeune qui peut également faire face, qui se prend en charge, comme disait Moussé Laurent Désiré Kabila, en face de l'abandon ou de la démission de l'État par rapport à la sécurité. La population peut également être mise en contribution pour mettre hors état de nuire les personnes qui peuvent, qui sèment de temps en temps l'insécurité au milieu de nos populations.
Bien, nous avons en ligne Eric depuis Mwanda. Bonjour, pardon, Eric Mwanda depuis Kolwezi. Bonjour.
Bonjour, Radio Okapi, bonjour.
Bienvenue Eric dans cette émission qui s'intéresse au phénomène kidnapping en RDC. Quelle est votre préoccupation?
Ok, ma préoccupation est, j'ai deux préoccupations juste à suggérer à propos de l'insécurité qui règne vraiment dans notre pays. Donc, la première préoccupation, je m'aimerais à ce que nos députés provinciaux ou nationaux puissent élaborer donc un loi qui pourrait nécessairement mettre fin aux insurrections qui déroulent vraiment en République démocratique du Congo, aux insécurités qui se déroulent vraiment en République démocratique du Congo. C'est à partir de ça. Deuxième point, j'aimerais demander au gouvernement national de créer seulement deux partis politiques. Deux partis politiques
Eric, on ne parle pas des partis politiques maintenant. Nous parlons des enlèvements dans les taxis et dans les taxibus. Et à l'Est aussi, il y a des cas d'enlèvement où, voilà, on prend un enfant, on exige la rançon, sinon on va tuer cet enfant. Merci d'avoir appelé. En ligne, nous avons Néhémie depuis Kisangani. Bonjour.
Bonjour la Radio Okapi, bonjour à tous les auditeurs de la Radio Okapi, particulièrement ceux du territoire d'Aro et dans le centre de négociation d'Ariora.
Alors pour lutter contre les kidnappings en RDC, quelles sont vos propositions?
Oui d'accord, merci beaucoup de nous avoir associés dans cette interaction. C'est un problème en fait qu'on déplore quasiment dans nos différentes villes et un problème qui se pérennise de plus en plus depuis un certain temps, monsieur le journaliste. En revanche, nous nous inquiétons beaucoup de l'inactivité, surtout du gouvernement, tant provincial que national, alors que ces comportements illicites qui touchent à la fois à la violation de droits de l'homme, en l'espèce par exemple du cas des viols, et à l'intégrité physique de l'homme. Donc quand moi j'évoque les cas des viols, et bien évidemment, je vais procéder par un témoignage. Lorsque je suis à la ville de Bounia, il y a eu deux élèves qui ont été, filles qui ont été enlevées, et puis certaines d'entre elles ont été violées. Donc vous voyez que ces phénomènes de kidnapping ou d'enlèvement, ça touche à la fois à l'intégrité physique de jeunes filles, de jeunes frères. Évidemment, c'est un acte vraiment que nous déplorons beaucoup. Donc, le gouvernement état provincial, et même l'action là des gens du Tillier, parce qu'il y a eu de gens qui ont été enlevés, mes propres amis d'ailleurs, à l'époque, bon, c'est pas pour l'instant, qui ont été tués, exécutés, moi je le vis comme ça, et ça c'est dans la ville de Bounia. Ces phénomènes devenaient de plus en plus récurrents là-bas. Donc, le gouvernement état provincial que national devrait mettre en place une équipe de contrôle ou d'enquête pour attraper ces hors-la-loi dans les cibles stratégiques. Parce qu'il y a des cibles stratégiques, quand moi je parle des cibles stratégiques, c'est-à-dire des mégapoles, comme vous avez évoqué à Kinshasa, où on devrait déployer le service des renseignements. Ils doivent se situer stratégiquement pour, bien évidemment, les dénicher de dans leur opération. Mais malheureusement, le gouvernement, la question de la RDC, ne fait rien du tout quant à ce qui concerne ce programme. Et c'est vraiment, vraiment déplorable. Alors malheureusement, on a comme impression que même le service de renseignement de chez nous sont inactifs, parfois corrompus, et soit collaboratifs avec ces délégats. C'est vraiment impressionnant. Comme moi, je suis à Bounia, il y a même des services, moi je ne cible pas, mais il y a de façon générale, même partout là où moi je suis, à Kisangani ou partout, on a comme impression que, bien évidemment, et ces délégats ont une coopération, bien sûr, avec certains membres. Je parle pas de tout, je ne mets pas en exergue, en cause la crédibilité, bien sûr, de tout service de renseignement. Certains membres de service de renseignement, certains ont une collaboration. Et ce qui nous étonne tellement beaucoup pour leur prérogative personnelle. Et donc, pour clore, il faut qu'on puisse arrêter avec tout ça. Sinon, c'est un futur péril pire.
D'accord.
Qui guette notre avenir.
Merci beaucoup. Merci, Némi. Voilà, merci Némi de Kisangani. Maître Gérard, qu'est-ce que vous pouvez dire à Némi par rapport à ses préoccupations?
Oui, merci. Parce que par rapport à l'intervention de M. Eric, les lois, nous les avons, mais il est question de la pratique de ces lois-là en ce qui concerne la sécurité des personnes et de leurs biens. Donc le problème, ce n'est pas de temps en temps recourir au Parlement et le Parlement provincial ou aux députés nationaux, mais il faut exécuter déjà, appliquer les lois qui existent. Mais M. Némi a tout à fait raison, parce que les équipes de renseignement, donc les services de renseignement ne doivent pas exister de nom. Et les renseignements, c'est justement pour assurer la sécurité des personnes et des biens. Nous avons les agents des bureaux 2 dans tous les sites stratégiques et doivent remplir effectivement leur mission. Donc ils ne savent pas, comme nous avons vu dans le passé, que les services de renseignement étaient en train de s'adonner à d'autres activités. Voici maintenant l'occasion où ces services doivent contribuer à la sécurité des personnes et des biens. Donc ces personnes et ces services doivent être redynamisés et doivent bénéficier des moyens logistiques du gouvernement pour faire face à cette situation. Également, les gouvernements doivent payer à ces agents-là qui sont dénoncés pour être de connivence avec l'ennemi, en connivence avec les gens qui rançonnent, parce qu'il semble que certaines autorités en place font du fric avec ce genre de commerce. Donc, lorsque ces autorités ou ces agents de service ne sont pas démissionnés, nous allons toujours connaître les problèmes récurrents par rapport à la sécurité. Donc, nous sommes tout à fait d'accord avec l'intervention de Némi depuis Kisangani.
Et si une victime porte plainte et on découvre que c'était une bande bien organisée, à ce moment-là, qui sera sanctionné par la loi?
Ouais, si c'est une bande, parce qu'une bande, bon, ce sera une association de malfaiteurs, donc il y a toujours une personne qui est à la tête d'une bande, et non seulement si on met la main sur la tête de la bande, on peut également mettre la main sur les autres. À ce moment-là, les autres membres de la bande seront poursuivis en complicité de la même infraction.
Et les sanctions ne seront pas les mêmes parce qu'il y a des enlèvements avec extorsion des biens, de téléphones, d'argent. Il y a enlèvement avec vol ou, avec violence, on bat la victime, on viole la victime ou soit enlèvement est suivi d'un meurtre.
Oui, les complices comme les coauteurs sont punis de la même peine que l'auteur principal de l'infraction. Cela est également prévu par le code pénal de notre pays.
Bien. Maître Gérard Lady, je rappelle que vous êtes avocat près les barreaux de Matete. Merci d'avoir répondu à notre invitation et à la prochaine.
Je vous remercie.
Radio Okapi. Okapi.
Okapi Service. Une émission au service des populations. Des questions, suggestions et problèmes qui vous touchent, ils sont au rendez-vous tous les jours du lundi au vendredi. Okapi Service, une adresse pour trouver solution à vos préoccupations.
Okapi. Comment lutter contre le kidnapping en RDC? Des cas d'enlèvement ou kidnapping sont devenus fréquents dans le pays, au Nord Kivu et dans certaines régions de l'Est. Certaines régions de l'Est, c'est devenu un business où des bandes organisées prennent en otage des enfants, des femmes et hommes et exigent des rançons avant de les relâcher. À Kinshasa, ce sont les femmes et jeunes filles qui sont victimes des enlèvements dans les taxibus appelés Ketch. Les malfaiteurs les dépouilles des téléphones, argent et autres biens des valeurs. Alors comment lutter efficacement contre ces phénomènes qui prennent de l'ampleur? Nous avons en ligne le professeur Joachim Mukaweboel, psychopathologue. Professeur, bonjour.
Bonjour, monsieur Tati. Bonjour.
Non, c'est plutôt Jody Kachama à l'antenne.
Ah, Kachama, excusez-moi. Parce que je confonds toujours vos voix.
Pas de souci. Professeur, nous parlons des cas des enlèvements à Kinshasa. Les jeunes filles sont enlevées dans les taxibus. Elles sont après traumatisées. Certaines n'arrivent même plus à prendre les taxis ou quand elles se retrouvent dans un véhicule et qu'on remonte les vitres, elles tremblent, elles peuvent crier ou manifester d'autres comportements. Alors, comment prendre en charge ces genres de personnes? Quelle est la meilleure prise en charge pour ces genres de personnes traumatisées?
Oui, merci beaucoup pour la question. Vous savez que là, nous sommes sur un terrain qu'on appelle le terrain du psychotrauma. C'est un terrain, c'est un domaine très, très important que nous devons exploiter dans notre pays, le domaine de la psychotraumatologie. Donc, vous savez, lorsque quelqu'un a été victime de viol, quelle que soit la forme, et dans la plupart des cas, plus de la moitié des cas de gens qui sont victimes de viols, d'agressions, souffrent de ce que nous appelons état de stress post-traumatique. Ils souffrent souvent de ça. Mais il est vrai que cet état de stress post-traumatique ne se manifeste pas tout de suite. On va remarquer que c'est après plusieurs mois, 2 mois, 6 mois, et chez d'autres personnes, même après 2 ans, on va constater certains désarrois dans le comportement de la personne. Donc, ce qui fait que, en tout cas, dans la plupart des cas, les gens qui sont victimes de ces agressions-là, il faudrait bien que ces gens soient pris en charge. Pourquoi? Parce qu'à un certain moment, ils vont développer un état de stress post-traumatique qui est généralement un trouble anxieux spécifique qui survient après un événement traumatique tel que le viol, l'agression, tel que la confiscation, n'est-ce pas, du téléphone et tout ça. Donc ça provoque un trouble anxieux spécifique en tout cas qui survient après un trouble après un acte soudain comme ça, et puis qui entraîne des signes évidents de détresse chez la plupart des sujets en tout cas. Alors, on va constater par exemple qu'il y a des personnes qui vont développer une anxiété généralisée beaucoup plus importante. Il y a des gens même qui peuvent même développer même ce que j'appelle un trouble anxieux. Ce trouble anxieux, ce sont des gens qui ont des difficultés à pouvoir approcher d'autres personnes. voyez, les gens qui peuvent développer une peur, qui peuvent développer une phobie, une phobie. Donc, tous ces gens-là qui sont victimes de n'importe quelle forme d'une agression soudaine doivent être pris en charge. Et la prise en charge que je conseille ici, d'une part, c'est une prise en charge psychologique. Et bien sûr, après avoir terminé tous les processus des examens médicaux pour toutes les personnes qui ont été agressées, blessées, donc il y a une prise en charge médicale, mais pour que la personne soit remontée, afin que la personne puisse vraiment être rétablie dans son état, il faudra bien un soutien, un accompagnement psychologique qui est très, très, très important. Et ça peut être une prise en charge individuelle ou une prise en charge de groupe. Ça dépend du contexte, ça dépend de comment la situation s'était passée.
Alors, professeur, avez-vous déjà reçu des cas des victimes des enlèvements dans les taxis qui sont venus pour recourir à vos services?
Mais oui, il y a beaucoup de cas. Il y a beaucoup de cas qui viennent parce que on remarque, par exemple, des gens qui, soudain, prenant une maman, qui change de comportement en famille, au sein du couple. Donc, le comportement, en tout cas, a changé. Le comportement du couple a changé. Pourquoi? Parce que dans l'histoire, lorsqu'on voit les antécédents, on constate qu'il y avait des voleurs qui étaient entrés à la maison soudainement la nuit, qui avaient traumatisé, qui avaient même blessé le mari prêt à les tuer. Et puis, la femme avait été violée et violentée. Il y a encore d'autres enfants, les enfants qui présentent des échecs au niveau de l'école. Le rendement scolaire baisse. Pourquoi? Parce que ils ont été victimes, n'est-ce pas, d'agressions par des coulounas et d'autres encore par des voleurs qui sont entrés, n'est-ce pas, à la maison. Eh bien, il y a encore d'autres cas qui sont comme ça, qui souffrent de ce qu'on appelle en fait une forme de d'impuissance sexuelle. Hein, c'est d'impuissance sexuelle. Pourquoi? Parce que après avoir été violée, n'est-ce pas, par des bandits, la dame, au niveau du couple, même si, bien que le mari l'ait accepté, mais ça ne marche plus. Parce que l'image...
Ça veut dire que la dame devient frigide, vous voulez dire.
Frigide, voilà. Mmh. Voilà le terme que je cherchais, la frigidité. Donc, la dame devient frigide du fait de ce traumatisme-là, n'est-ce pas? Et puis, il y a encore d'autres enfants qui développe la frigidité, notamment chez les filles, ça se présente de plus en plus. J'ai même un cas que j'avais suivi d'une fille qui était frigide. La frigidité était liée au fait qu'elle avait été violée par un membre de sa propre famille. Il a fallu que c'est
oui,
c'est,
professeur, ça c'est des cas, ça c'est en général, mais je parle de particulièrement des gens qui ont été enlevés dans les taxis bus, les taxis qu'on appelle les catch.
Oui. J'en ai reçu comme ça, quelqu'un qui avait été, n'est-ce pas, agressé dans le taxi bus. Donc on lui dit bon voilà, on va te déposer là-bas, mais après la personne est perdue. La personne est perdue maintenant. Qu'est-ce qui se passe? La personne se trouve dans, développe ce que nous appelons les troubles anxieux. Et cela s'est manifesté 2 mois après. 2 mois après, la personne ne veut plus sortir de la maison. 2 mois après, la personne n'aimerait pas prendre n'importe quelle voiture. Aimerait même poser la question si je pouvais acheter un vélo. Parce que la personne avait peur de tout espace clos, notamment une voiture qui est donc à bord de laquelle il y a des personnes qu'elle ne connaît pas.
Mmh.
Voilà.
Et maintenant, quelle est la solution d'après vous? Il y a beaucoup de jeunes dames, des jeunes filles qui sont traumatisées à la suite de ces enlèvements dans les taxis catch à Kinshasa. Qu'est-ce qu'il faut faire pour leur assurer une meilleure prise en charge?
Oui, c'est ça que je dis. Je dis ceci. Cette agression qui est soudaine, qui est imprévisible, en tout cas, dans la majorité des cas, ces gens-là risque de développer le trouble du stress post-traumatique, qui est très, très dangereux. Ces gens-là doivent approcher les services de consultation psychologique afin qu'on puisse les accompagner. Sans accompagnement, une fois que ce trouble de stress post-traumatique se cristallise, cela aura des effets dans le futur, dans le mariage, et sur le plan professionnel, sur le plan académique, sur le plan relationnel. Parce que c'est un trouble qui se cristallise et puis qui peut vivre comme ça, qui peut accompagner la personne tout au long de sa vie, mais sauf s'il y a résilience. S'il y a résilience, parce qu'il y a des cas d'autres personnes qui se résilient, c'est-à-dire que qui peuvent supporter ces chocs-là au fur et à mesure. Mais s'il n'y a pas résilience, ça va perturber en tout cas l'histoire de la vie de la personne. Donc il faudrait bien une consultation, un accompagnement psychologique est très très important.
Et au niveau des familles, de la communauté, comment leur apporter, quel genre de soutien on peut apporter à ces personnes victimes des traumatismes?
Oui, au niveau des familles, par exemple, au niveau des familles, vous avez quelqu'un qui a été agressé. Vous l'avez retrouvé, la personne revient. Cette personne-là, en réalité, doit être prise en charge. Et la famille a été également traumatisée. Nous appelons une thérapie systémique. On devra bien mettre sur pied une thérapie systémique pour la personne, non seulement pour la personne, mais également pour les autres. Pourquoi pour les autres? Eh bien, parce que la personne vit en société. Le problème qui l'a affecté a aussi affecté d'autres personnes. On ne peut pas seulement traiter la personne qui a été enlevée sans traiter d'autres personnes de la membre, qui sont membres de sa famille. C'est ça qu'on appelle une thérapie systémique avec une psychothérapie de groupe, une psychothérapie familiale. Voilà, il faudrait bien que tous ces gens-là soient accompagnés par un spécialiste, n'est-ce pas, en la matière.
Bien, professeur Joachim Moukaou-Ebouel, je rappelle que vous êtes psychopathologue. Merci d'avoir répondu à notre invitation et à la prochaine.
Merci, Kachoma, merci beaucoup.
Benga wa kumpala, kaba kubengi, epo le muntu.
Na bomba yango, denge wana. Ma meilleure chemise au bébé sakana, ta charouge à lèvres na yo.
Il y a deux ans, tu craches mbwangi na louchi.
Nalini, dans soyo, tobinaka.
Junior Likelenge.
Na mona yo, au pimba la moko. Me batre na yo, na bomba intacte. Tilelo, belle inconnue.
Gaël et son ours, Bobalo à Libreville.
Tes yeux doux, cheveux longs. Visage et d'enfant,
Aimé Wawa,
et Tikila,
Eva Mouari,
traumatisme, Nala Lakao, Nabutu,
Dadi Manima,
Nala Mukaka Nambo, jour après jour,
Assad Konde Manager,
Bye Bawa,
Ponapoli Mobabaluki Nakatia, Batombo Nabango, Pokomo Boyamai,
Eric Kamba,
pas rêvé, considéré Naloukola.
Honorable ZK Kaita Mbumba Viena Ngaï Jacques Chicha
Sokia Yeta
Bernardo Zitapuati double zero
Kutangana Kamba Pormutu
Emembayo Kidye Mutu
Yabi Sangana Yeba Soki Boli Wesili
Sparta Bako, Ogilu Tulanzambe à ma policier.
Bobby Pesana Moto, Abunaïna.
Patrick Olungo Supreme.
Papa Tao,
Bobby Nguana Lumbashi.
Liboso, Salakio Tani, Satomo Tolimbisa.
Yvonne Muleka la Supreme.
C'est comme il possède mon bimbao. Na kopenga jilesi yombele ye lisa se defendre na ipona sale lokote
Bon mutu wa maninga ava
Patrick Leblanc na matadi
Kusabote nga na kemae
Magistrat Chambala
Bon mutu wa maninga ava
Serge Mugulay top class
Kusabote nga na kemae
Elvis Ayato London
Entourage Oko Molanda
Claude Massamba Paris
Bruxelles Trésor
Mozambique
Et Salelino Mabe mama oyebi na yo kaka kolinga kasi kolimbisa te sen pasa eme
Karine Mokonzi
Chacha dile teta oe topa makambo babwaki wako
Angel Tema
satelite oyo moto memande ngambo esko moni teo esika babwake topa makambo
Chef Nestor Akiba Jean Salvador Bianke Meye Maître Ben Souloubiko Roger Motingi Alexambour Jean-Lionel Galliano Zola de la Cruz
L'amour c'est comme l'enfer Maman n'a comme un bangé la manzo
Okonze Abazombo Kunae Jisse Songo Inge Louvelela Pichu Kifaya Ben Muyamba Ose Masinda
Moïse Abitanzi Tina Lipanga Maye Bima Peple Mela
Tosha Plisse Papi Seben
Pole Moutou Betanganzi Tabilingi Susina Mata Eko Tambamu
DJ Ken Nalwanda Ya Jean-Claude Songolae
Cécile Badio Zambé Abba Mama Président Francis Manwana
Edith Danga les Bruxellois
Odete Chibambe Namati Nzobe Sita Moussafai
Linda Kenzo Naoli la Perle Rare
Marte Se Masinda Elamba Ne Elamba Bobone Lelangae Soki Boku Tani Naido Tsutsa Kouye Bisaye Abakisata Mwani Lobao
Fabrice Memba Alta Moda
Yo moto la kisanga infason ya kulinga o O becelebra o lobi o tikangai O pakisipan o deside o natambati
Alpha Bokole
Erite minimbu fanta fofana fiens kamawele Torise lutona dio Chanta vid kiambote Papa na jon David
Astrid Chandaya Ben Munge Fanta Fofana Mohamed Mwamba Nanenga Soumalobe Les Gabonais les plus dangereux Ben Willy La puissance mondiale Jean-Jico Lomba Kula Ben Koué Charlie Mbochana
Capi Service.
Okapi, Radio Okapi.
Le conseil du jour.
Bien, trucs et astuces pour bien conserver les fruits et légumes. Les fruits et les légumes frais sont les plus fragiles et ont tendance à moisir facilement. Thérèse Cancou nous donne quelques astuces pour conserver les aliments les plus longtemps. Thérèse Cancou.
Les citrons frais ne se conservent pas éternellement. Au bout d'un moment, ils flétrissent et pourrissent même quand on les conserve dans les frigos. Heureusement, il existe un truc pour les conserver frais et juteux plus longtemps. Prenez un bocal en verre avec couvercle, placez les citrons non coupés dedans, remplissez les bocals d'eau fraîche du robinet, refermez le bocal et placez-le dans les frigos. Vous allez pouvoir garder vos citrons frais et juteux pendant des semaines entières. Et pourquoi cette astuce marche? Car la peau du citron se referme au contact de l'eau. Résultat, cela empêche la peau du citron de se dessécher. En ce qui concerne la tomate, nombreux sont ceux qui la conservent au frigo, chose qu'il ne faut pas faire justement. Le froid fait perdre aux tomates tout leur goût, quelle que soit la saison. Placez plutôt vos tomates dans un panier ou dans un saladier afin d'éviter qu'elles ne s'abîment en quelques jours. Évitez de les placer près de votre fenêtre. Les changements des températures les feraient ramollir et pourrir. Elles éviteront en plus les soleils qui le feraient mûrir trop vite. Autre astuce, ne lavez vos tomates qu'au moment de les manger afin que là encore elles conservent tout leur goût.
Fais Fidèles auditeurs, c'est par ici que s'achève cette émission de La Vie au quotidien au Capi Service consacrée à la lutte contre le phénomène kidnapping, les enlèvements en République démocratique du Congo. Merci de nous avoir suivis. Polydor Bansunga était à la mise en onde. Tati Mapoukou a assuré la réalisation. Marcel Ngombo à la coordination au micro. Jody Daniel Kachama, tout le plaisir était pour nous de vous servir. Restez branchés sur la fréquence de la paix et à la prochaine.
Au Capi Service, Jody Daniel Kachama. Au Capi.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Okapi Service, le magazine de la vie au quotidien. C'est un plaisir de vous retrouver encore aujourd'hui pour vous servir. Comment lutter contre le kidnapping en République démocratique du Congo? On en parle avec Maître Georges Kapiamba, président de l'Association congolaise pour l'accès à la justice, à Cajan Sigle. Maître Georges Kapiamba, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue dans cette émission de La Vie au quotidien qui s'intéresse au kidnapping ou les phénomènes enlèvement. Des questions et préoccupations, écrivez-nous à service@radiocapi.net. Postez également vos questions et préoccupations sur la page Facebook de l'émission au Capi Service. Polydor Bansunga, la mise en onde, Tati Mapoukou assure la réalisation de cette émission que coordonne Marcel Ngomombalakeba. Au micro, c'est Jody Daniel Nkashama. Bienvenue à tous et excellente condition d'écoute du magazine de La Vie au quotidien.
À l'occasion des 75 ans des Nations Unies, retrouvez sur les antennes de Radio Capi l'histoire de l'engagement de la République démocratique du Congo dans le système onusien. L'accompagnement de l'Organisation mondiale dans le processus de développement et de stabilisation de l'RDC. Ensemble avec la famille de l'ONU.
Au Capi Service, Jody Daniel Kachama.
Bienvenue dans Okapi Service, le magazine de la vie au quotidien. Des cas d'enlèvement ou kidnapping sont devenus fréquents en République démocratique du Congo. Au Nord Kivu et dans certaines régions de l'Est par exemple, c'est devenu un business où des bandes organisées prennent en otage les enfants, des femmes et des hommes et exigent des rançons avant de les relâcher. Et parfois, ils tuent même les victimes. À Kinshasa par ailleurs, les femmes et jeunes filles sont victimes des enlèvements dans les taxibus appelés catch. Les malfaiteurs les dépouillent des téléphones, argent et autres biens de valeur et vont les abandonner dans des lieux obscurs ou des lieux où il y a presque pas de gens. Alors comment lutter efficacement contre ce phénomène qui prend de l'ampleur en République démocratique du Congo? Pour en parler, nous avons en ligne Maître Georges Kapiamba, président de l'Association congolaise pour l'accès à la justice, à CAJE en sigle. Maître Georges Kapiamba, encore une fois, bonjour.
Bonjour.
Alors comment pouvez-vous expliquer ce phénomène, le kidnapping, ce phénomène, l'enlèvement des hommes et des femmes à Kinshasa et au Nord Kivu, à l'est du pays? Qu'est-ce qui serait à la base de ces phénomènes, disons?
Bon, il faut dire que les phénomènes kidnapping, principalement de femmes et de jeunes filles, nous dénonçons parce que il se développe de plus en plus dans la ville de Kinshasa, mais aussi dans d'autres villes de la République démocratique du Congo. Et les résultats de la baisse de la capacité des forces de sécurité à pouvoir assurer la protection des personnes et de leurs biens comme il se doit, donc de manière efficace. Cela a laissé la place à ces bandes de criminels qui se permettent de piller les femmes, de piller les jeunes filles, de les pourchasser dans des moyens de transport, mais s'organisent même aujourd'hui en prenant eux-mêmes le contrôle des volants, en arrachant certains véhicules qui sont mis en transport, en se transformant en conducteurs pour facilement attirer vers eux ces victimes. Et donc, cette baisse de vigilance de la part des services de sécurité de l'État qui a entraîné cette criminalité.
Alors, comment expliquer cela? Parce que à Kinshasa, par exemple, à l'époque du gouverneur Kimbuta, tous les véhicules, tous les taxis devaient être peints en jaune et avoir des numéros d'identification afin de lutter justement contre ce phénomène d'enlèvement.
Oui, ce n'était qu'une des solutions imaginées à son temps par l'ancien locataire de l'hôtel de ville de Kinshasa, mais qui n'avait pas en soi contribué à l'éradication du phénomène totalement, parce que même après l'identification et l'opération de repeinte de véhicules, on a toujours continué à enregistrer les doléances de plusieurs victimes, ce qui fait que depuis 2017 à ce jour, la CAJ, nous avons totalisé 127 cas de kidnapping qui ont concerné seulement des femmes et des jeunes filles. C'est pour vous montrer que ces mesures-là n'avaient pas en soi contribué à mettre fin à ce phénomène. Et dans la lettre que nous avons adressée dernièrement au gouvernement, au Premier ministre, avec copie à plusieurs d'autres responsables qui sont censés être impliqués dans la protection des personnes et des biens dans notre pays, nous avons relevé le fait que on ne peut pas combattre la criminalité dans des grandes villes comme Kinshasa, Lubumbashi, Goma, Mbujimayi, pour ne citer que ces villes-là, sans assurer la présence plus ou moins permanente des patrouilleurs de la police. Et ça, on le voit partout ailleurs où on a les soucis de pouvoir dissuader les criminels à agir trop facilement. Chez nous, lorsque vous circulez, par exemple même à Kinshasa, il est rare de trouver, même dans certaines petites avenues où vous croiserez des jeeps de police en train de faire la patrouille ou être seulement stationné pour ne fût-ce que dissuader les criminels à opérer, soit dans des arrêts de bus ou dans des arrêts de taxi. Donc, nous avons rappelé cette mesure-là comme un des moyens pour éloigner la menace des criminels. L'autre solution que nous avons proposée, c'est de donner des moyens à la police, au service de sécurité. Parce que pour avoir effectivement cette mobilité, occuper des lieux les plus importants ou sensibles, aller dans les fins fonds de la ville de Kinshasa, il faut que la police ait des moyens logistiques, les moyens de locomotion. Mais il faut avoir aussi l'argent pour payer ces agents qui vont travailler du matin au soir toute la journée, pour ne pas parler de 24 heures sur 24 heures. Donc, si le gouvernement ne donne pas ces moyens, il est difficile pour la population d'espérer une protection efficace.
Alors, Maître Georges Okapiamba, quel est le mode opératoire de ces malfaiteurs dans les taxis, dans les taxis appelés Ketch à Kinshasa?
Alors, ce que nous avons constaté depuis 2017, c'est que s'il était vrai qu'au départ, ils s'organisaient pour se mettre dans des arrêts ou sur le passage des taxis moto et arracher brutalement les sacs des femmes ou des téléphones ou d'autres objets qu'ils transportaient tout en étant sur les motos. Maintenant, ce qu'ils ont fait, c'est que la plupart d'entre eux ont soit collaboré avec leurs frères et sœurs ou amis qui ont des véhicules des Ketch, généralement, ils ont repeint ces véhicules en couleur jaune, ils ont utilisé des fausses plaques qu'ils volent sur d'autres véhicules, soit en stationnement ou dans des garages. Ils mettent frauduleusement sur ces véhicules, et comme parmi eux, il y a toujours ceux qui savent conduire, ils se mettent à faire aussi les transports en commun, des taxis. Alors, ils s'arrangent pour que, quand ils arrivent dans un arrêt, ils calculent souvent les heures de pointe, où ils savent que les gens sollicitent beaucoup les moyens de transport, et ils ciblent principalement les femmes qui portent des sacs sur eux, des femmes bien habillées, dont ils savent que elle travaillerait quelque part, elle peut avoir une activité lucrative et qu'en conclusion, elle ne peut pas manquer de l'argent sur elle ou si elle est bien habillée, qu'elle porte des bijoux. Et il l'attire vers les taxis. Dès qu'elle monte et les taxis démarrent, elle peut trouver une ou deux autres personnes parmi lesquelles ils associent même d'autres femmes criminelles aussi. Ils vont arriver à quelques distances et ils montent toutes les vitres, ils les bloquent et ils commencent déjà à menacer les personnes qui sont montées à bord du véhicule jusqu'à la blesser, la torturer. D'autres nous ont même rapporté pour certaines femmes d'avoir été même violées et on arrache tout ce qu'il y a sur la personne avant d'aller la jeter principalement vers le fleuve Congo.
Et pourquoi ces malfaiteurs ciblent particulièrement les femmes et les jeunes filles?
Bon, ils savent très bien que ce sont des personnes vulnérables qui n'ont pas, de par leur constitution physique, n'ont pas la capacité de se battre ou de se défendre à tel point qu'elles peuvent aller même jusqu'à faire échouer leur action. C'est la raison pour laquelle ils ciblent les femmes et les jeunes filles, mais aussi ils savent que la plupart des femmes vont au centre-ville ou se déplacent pour faire des emplettes. Et donc, elles ne peuvent pas manquer dans leur sac un peu d'argent. Donc, quand elles sortent, sûrement qu'elles vont aller soit acheter des choses à manger ou qu'elles sont allées faire des courses pour retirer de l'argent et qu'au retour, il faut absolument les lui arracher.
Et on a appris qu'ils opèrent même, ils arrachent les téléphones et vous demandent de donner le code M-Pesa ou Airtel Money et reste et ils s'arrangent pour aller retirer l'argent.
Et voilà, c'est ça. Maintenant, c'est ça. Et comme ils savent que la plupart des Congolais essaient de constituer leurs petites épargnes sur Mobile Money, alors, quand ils tombent sur quelqu'un, principalement une femme, ils la tabassent sérieusement. Ils blessent même certaines femmes. Nous avons vu des femmes qui ont été vraiment cruellement blessées parce que cette femme avait résisté pour donner le code, son code PIN, pour accéder à son compte M-Pesa, pour donner aussi son code de sa carte crédit. Donc, pour eux, tout ce qu'ils recherchent, c'est comment accéder à l'argent et extorquer ça par les voies de violence.
Mais nous avons suivi qu'à un certain moment, la police avait mis la main sur quelques-uns de ces malfaiteurs. Est-ce que c'est des civils? Est-ce que c'est des militaires, des policiers? Est-ce qu'on a une idée là-dessus?
Oui, nous avons été associés, invités, parce que nous avions à un moment donné fait beaucoup de pression sur les responsables de la police, ville de Kinshasa, qui a eu l'amabilité de nous associer à une des séances de présentation d'un groupe de ces criminels, de ces malfaiteurs, pour nous permettre d'écouter leur version, d'écouter savoir leur mode d'opération. Et nous avons effectivement constaté que sur 11 qui avaient été présentés, 3 étaient agents de la police. Et donc, il y a à certaines occasions où il a été effectivement constaté que des éléments de la police plutôt ont eu à collaborer avec des civils.
Et généralement, quand ils opèrent dans ces taxis, sont-ils armés ou pas?
Ils sont armés pour certains, même avec des armes à feu. Dans certains cas, on a constaté qu'ils étaient armés. Ils avaient des armes blanches, notamment des couteaux, des poignards. Ils utilisent même des lames de rasoir. D'ailleurs, une des victimes nous a rapporté que lorsque elle s'était retrouvée dans un taxi, elle avait été convaincue que c'était un taxi normal, sécurisé, parce que déjà il y avait une femme à l'intérieur et un homme, mais quand elle était entrée, c'était par contre la femme qui a commencé déjà à l'attaquer une fois que toutes les vitres avaient été montées et bloquées. Et la femme a sorti même une lame de rasoir, l'a menacée en disant, si tu ne sors pas tout ce qui est dans ton sac, tu nous rends, je vais commencer par te couper tout ton visage là, les dessiner comme je voudrais. Donc vous comprenez que ils utilisent toutes sortes d'armes, là, armes à feu comme armes blanches.
Bien. Comment lutter contre le kidnapping, l'enlèvement en République démocratique du Congo et particulièrement dans la ville-province de Kinshasa? On en parle dans Okapi Service aujourd'hui. Des questions et préoccupations, appelez-nous, non, écrivez plutôt à service@radiookapi.net.
Les Nations Unies célèbrent ses 75 ans d'existence. 75 ans d'efforts inlassables pour la réalisation d'un monde meilleur. En 2020, quelle évaluation les peuples du monde peuvent faire pour l'idéal de l'ONU? Quelle est la contribution des acteurs politiques, économiques et culturels congolais à la construction de cette œuvre humaine? La Radio de la Paix vous propose des émissions spéciales à l'occasion des 75 ans des Nations Unies. Retrouvez-nous sur nos antennes, ensemble avec la famille de l'ONU.
Okapi Service, jeudi Daniel Kachama.
Comment lutter contre le kidnapping, les enlèvements en République démocratique du Congo et particulièrement à Kinshasa? Nous avons Aline Kabamba depuis Kinshasa, la ville de Kinshasa, et Lompoko nous appelle de Mandaka. Kabamba, bonjour.
Bonjour Radio Okapi.
Quelle est votre préoccupation?
Oui, mais c'est les journalistes, pour ce qui concerne vraiment les enlèvements. Moi, je remarque que vraiment le gouvernement congolais doit se prendre en charge. Comment se faire? D'abord, le gouvernement doit placer le policier à chaque arrêt. Hein. Donc là où il y a des arrêts, le gouvernement doit placer au moins des policiers pour contrôler. Parce que souvent, le kidnapping ou les enlèvements commencent par les arrêts qui viennent sur les arrêts. C'est là que le mercenaire vient pour enlever les gens. Alors si là, puis alors commencer à contrôler si le chauffeur vient au moindre moment permis de conduire, on identifie les cars et on doit leur bien faire. Et même pas laisser sur les arrêts. Il n'y a aucun contrôle. Donc on a vraiment mis la vie des Congolais en danger.
Bien, merci Kabamba de Kinshasa. Lompoko, oui?
Je vais ajouter une chose.
Oui?
Après le contrôle, mais aussi il faut savoir, je me rappelle un jour où je venais de la Victoire. Les policiers avaient arrêté l'écart au niveau de Triomphal. Comment que si les policiers commencent à arrêter l'écart en cours de route, embouteillage. Et c'est on avait créé vraiment l'embouteillage, vous n'imaginez pas.
Bien, c'est là. Oui.
Donc, c'est-à-dire, on doit d'abord, pour qu'on ne doit pas contrôler en cours de route, on doit contrôler aux arrêts. Et les policiers qui se trouvent au niveau des triomphants derrière là, hein, que ça c'est de faire ce qu'ils avaient fait la fois passée. C'était vraiment choquant parce qu'on était pressés, ils nous avaient freiné plus de 30 minutes et c'était vraiment inquiétant.
Bien, merci. Lompoko de Mbandaka, bonjour.
Bonjour monsieur le journaliste, je t'appelle depuis la province de l'Équateur en Mbandaka.
Quelle est votre question?
Cette préoccupation.
Oui.
Ouais, par rapport au sujet du jour, ma préoccupation c'est celle-ci. Nous devons comprendre d'abord que les enlèvements et les kidnappings ne datent pas d'aujourd'hui. Ce sont des choses qui ont pris les jours depuis longtemps. C'est depuis le temps jadis que cette pratique était remarquée. Mais sinon, actuellement, c'est un problème pour notre pays parce que nous voyons que parmi les causes, ce sont les leaders politiques. Donc, disons, la politique joue un rôle très important par rapport à cette affaire. Donc, si je dis la politique, ce n'est pas seulement, ce n'est pas accuser les politiciens, soit les différents politiciens des différents partis opposants, mais surtout, je veux juste dire que nos leaders politiques ne cessent de faire des pratiques pareilles pour qui exposent la vie de la population. Souvent, nous constatons souvent que lorsque un gouvernement, soit un régime, tombe, il y a de ses opposants, soit de ceux qui haïssent la personne du régime actuel, qui chercheront maintenant à bouleverser ou soit à affaiblir la cotation de l'actuel gouvernement. Donc, quant à ça, je veux dire par là que la politique joue un rôle très important. Alors, le gouvernement, il revient maintenant au gouvernement actuel, ou soit au régime actuel, de prendre la responsabilité en main pour éviter que, non seulement, ils vont échouer, parce que lors de la cotation, nous voyons tout ça, parce que lors de la cotation, nous voyons qu'il y a eu des cas de kidnapping, nous avons remarqué au gouvernement de monsieur le président actuel, qu'il y a eu des cas de kidnapping, et nous avons remarqué ceci, cela. Ça serait parmi des points qui vont être dits lors des cotations par la population. Alors, quant à ça, je dis ça parce que il n'y a pas l'électricité. Les kidnappings sont dits au non-éclairage. C'est dit au non-éclairage, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a pas d'électricité dans la ville, d'être dans la ville de Kinshasa comme la capitale, il y a de ces coins-là où il n'y a pas d'électricité. Alors, quant à ça, vous allez voir, il y a des bandits qui vont circuler. Donc, le gouvernement doit prendre la responsabilité, non seulement en voulant éclairer la ville-province de Kinshasa en intégrité, mais aussi mettre la sécurité en place, c'est-à-dire multiplier le contrôle, non seulement le contrôle, mais je voulais dire...
Les patrouilles.
Et aussi, dans chaque quartier, il doit y avoir un point de référence pour chaque quartier, pour qu'il y ait néanmoins des policiers qui vont veiller sur la population. Et nous devons comprendre que la population, les policiers n'ont pas seulement... Parce que c'est longtemps, nous remarquons, parmi les kidnappers, il y a aussi des policiers qui participent. Donc, les gens qui sont chargés de protéger la population, elles sont en premier des gens qui participent au kidnapping.
Merci. Donc, souvent, merci, Lompoko.
C'est équilibre la population.
Oui, merci, Lompoko, pour cette intervention. On va donner la parole à Martin de Kinshasa. Bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Quelle est votre préoccupation, Martin?
Ah oui, merci beaucoup. Votre sujet, d'ailleurs, je vous rappelle qu'il avait attiré ma particulière intention. C'est pourquoi j'avais même laissé les commentaires. Alors, pour mettre fin à cette problématique qui fait couler beaucoup d'encre sur l'étendue nationale, il faut d'abord renforcer les systèmes de sécurité. Vous voyez que si on renforce aujourd'hui les systèmes de sécurité, il y a moyen même d'identifier dans les quartiers les jeunes gens non identifiés qui sont en train de faire pleurer les gens. Donc, quand on renforce ces systèmes-là, il y a moyen d'identifier. Donc, il faut d'abord renforcer les systèmes de sécurité dans nos petits quartiers, voire même dans nos provinces. Et de deux, il faut que l'État congolais aussi prenne aussi ses propos. Parce que quand l'État congolais aujourd'hui prend en charge de circuler ou bien d'identifier ces jeunes gens-là, vous remarquerez qu'il n'y a pas un suivi. Vous verrez que ce qui s'ensuit, c'est la corruption. Pourquoi j'ai dit ça? Nous sommes ici aux environs du site des sites universitaires du campus. Quand on arrête même un homme là non identifié, à un certain moment, quand il arrive à la police, il est censé de donner l'argent et on libère. Donc c'est pourquoi je suis en train d'insister en disant qu'il faut d'abord que l'État congolais lutte contre la corruption de ces jeunes gens non identifiés, monsieur le journaliste.
Merci. Merci Jean Kandolo de Kananga. Merci Martin de Kinshasa. Nous allons accueillir Jean Kandolo de Kananga. Bonjour.
Bonjour, monsieur Jody Daniel Kachama. Bonjour à tous les auditeurs de la radio Okapi.
On vous écoute, Jean Kandolo.
Oui, je suis Jean Kandolo, au Kassa Central, précisément dans la ville de Kananga. En plus, l'étudiant de G3.
Jean Kandolo, passez directement à la question. Je vous ai déjà présenté.
Ok, merci.
Oui, juste, je salue les interventions de tous nos co-débatteurs pour dire qu'ils ont bien intervenu. Et moi, j'arrive maintenant à accentuer mon point de vue sur le ministère chargé de la décentralisation, non, le ministère de l'Intérieur et Sécuritaire. Alors, il faudrait que le gouvernement congolais puisse donner la charge afin que le ministère de la Sécurité descende sur le terrain. Donc, on va ces gens afin de pouvoir contrôler d'abord. Parce que nous, ici à Kananga, on ne parle pas pour l'insécurité, donc l'insécurité, n'en parlons pas. Il y a même des cas que je peux même vous confirmer à la radio, il y a les soi-disant portés de l'ordre qui ont arrivé à violer les femmes. Il y a ce qui s'est passé la semaine dernière dans mon quartier résidentiel à Kananga. Il y a les policiers qui sont allés violer une maman et des enfants à la maison.
Bon, alors pour vous, qu'est-ce qu'il faut faire pour lutter contre ces enlèvements, les kidnappings que nous déplorons aujourd'hui?
Ok. Nous voulons que le ministre de la donc le ministre de sécurité et le ministre donc de l'Intérieur puissent mettre dans sa place. Donner quoi? Faut placer les personnes de l'ordre. Il y a les services des ANR, il y a les services, tous ces services-là. Nous voulons que l'État puisse d'abord multiplier d'abord les policiers. Nous avons une minimum de, donc, quantité de policiers dans notre province. Qu'on ajoute encore, qu'on recrute encore des policiers afin de majorer sur la petite quantité que nous avons. Sinon, on risque de perdre toute la population par les viols, la vol, donc du vol. Tout cela n'arrive pas à bien faire fonctionner donc la sécurité ici dans la ville de Kananga.
Merci Jean Kandolo de Kananga. Maître Georges Kapiamba, vous avez suivi les auditeurs, oui, leur point de vue. À vous la parole.
Alors, je pense qu'il y a trois éléments importants que j'ai pu dégager de ces différentes interventions. Il y a le contrôle des parkings, l'identification des véhicules. Et nous sommes totalement d'accord avec ceux qui pensent qu'il faut arriver à contrôler les parkings. Mais ce n'est pas contrôler les parkings dans le sens de croire qu'il faudrait seulement que les policiers restent dans les parkings. Dans d'autres pays, même dans notre pays, nous savons qu'à un certain moment, lorsque les choses étaient bien organisées, le travail ou le métier de chauffeur était un métier qui n'était exercé que par des personnes qui étaient d'abord identifiées, connues des autres. Et que pour exercer, venir avec sa voiture, s'arrêter dans un parking, ce n'était pas n'importe qui pouvait le faire parce que vous devez être connu par ceux qui sont censés y travailler. Mais maintenant, il n'y a plus ce contrôle. C'est la raison pour laquelle nous avons insisté dans notre plaidoyer écrit que nous avons adressé aux autorités pour que les gouverneurs de la ville de Kinshasa, comme les autres gouverneurs ou des maires des villes de notre pays, puissent rapidement procéder à l'identification de tous les chauffeurs et de faire numéroter de manière indélébile tous les taxis bus et les taxis motos. Et à ce moment-là, on est au moins rassuré de savoir que l'État a fait son travail et qu'il ne peut être encore sur terrain, sur la voie publique, au volant pour transporter des gens que des personnes qui sont contrôlées et que le véhicule sera aussi visible de par son numéro. Deuxièmement, il faut qu'on aménage les parkings. Lorsqu'on aménage des parkings publics, il y aura une sorte de développement ou de l'organisation des corporations. Les chauffeurs eux-mêmes vont identifier ceux qui vont travailler dans chaque parking, de sorte qu'un intrus qui pourra tenter d'y aller pourra être identifié, éventuellement être mis à la disposition de la police. Ce sont là des mesures qu'il faudrait absolument mettre en application pour au moins empêcher la présence de ces chauffeurs d'occasion qui commencent aussi à se livrer à ce métier et qui sont pour la plupart des criminels qui en profitent pour extorquer les biens principalement des femmes.
Voilà. Donc c'est ce qu'il faut faire pour lutter contre cela. Il y a un des auditeurs qui a proposé d'ailleurs qu'on puisse placer deux policiers à chaque arrêt pour contrôler. Pensez-vous que le fait de renforcer la présence de la police sur les grandes artères est une solution?
Non, pas du tout. Nous disons qu'il ne faudrait pas qu'on envisage de placer des policiers dans chaque parking. Ça, ce n'est pas essentiel. Par contre, il faudrait que nous constations aussi que nos autorités donnent des moyens, achètent des véhicules à la police pour leur permettre de faire ce que nous appelons la patrouille, qu'elle soit la patrouille de la journée comme de la nuit, comme on les voit partout au monde. La police doit quand même marquer sa présence. Ne fût-ce que le fait d'occuper le terrain est de nature à faire reculer les personnes qui auraient, par exemple, des projets de s'attaquer aux personnes ou de se mettre à transporter des femmes et des jeunes filles pour les extorquer. Ça, c'est une activité normale que la police doit mener. Mais chercher à ce qu'il soit dans chaque arrêt, vous savez, il peut y avoir 1000 arrêts, avoir des policiers partout là-bas, ça va être difficile.
Bien, il y a un autre qui a dit, Lompo Kodembanaka a dit que c'est, d'après lui, ce sont les politiciens qui sont derrière, qui créent ce climat d'insécurité pour saper les actions du pouvoir en place.
Non, par contre, ce que nous avons constaté de par notre enquête, c'est que parmi les taxis qui circulent, il y en a beaucoup qui appartiennent à certains politiciens, à certaines autorités. Parmi ces autorités, il y a même des officiers supérieurs. Ce qui fait, ça, ce sont des policiers qui nous ont rapporté, ce qui les empêche même à organiser leur propre contrôle, que ce soit des personnes qui sont au volant, de par les documents qu'ils doivent détenir sur eux, parce qu'aujourd'hui, vous savez qu'il y a beaucoup de chauffeurs qui n'ont pas de permis de conduire. Et même dans nos propositions, nous avons aussi demandé au gouvernement de finaliser le processus de la désignation d'une firme ou d'une maison, une société qui devra travailler avec le gouvernement pour produire des permis de conduire sécurisés et de ne les délivrer qu'à des personnes qui auraient été formées suffisamment dans un centre agréé comme chauffeur, qui auraient passé au moins à un stage et qui auraient satisfait avec grande distinction. Et donc, c'est seulement à ces personnes-là qu'on devra au moins donner le permis de conduire. Parce que sans permis de conduire aussi aujourd'hui, il est difficile de savoir qui est chauffeur et qui ne l'est pas.
Voilà, sans permis de conduire, il est difficile de les savoir. Actuellement, à Kinshasa, la police organise la fouille de véhicules à partir, je crois, dans la nuit, à partir de 22h, sur les grandes artères. Bon, il y a des éléments de la police qui procèdent à la fouille des taxis et de tous les véhicules appelés catch. Pensez-vous que c'est un moyen efficace de lutter contre ces phénomènes?
Non. C'est un moyen pour lutter, mais qui n'est pas efficace. Pourquoi? Parce que, vous savez, lorsque un criminel veut agir et qu'il sait que au point, par exemple, de la gare centrale, où il doit passer, où il a l'habitude, par exemple, de se mettre pour kidnapper les gens, il pourra y avoir un checkpoint où, après la gare centrale, avant d'aller allumeté, il y en aura deux, il ne va plus se livrer à cette activité. Il peut peut-être rester chez lui, se débrouiller autrement, attendre les jours où les checkpoints seront totalement levés pour commencer à kidnapper des personnes. Et donc, ça, c'est vraiment une réponse conjoncturelle et n'est pas pérenne. Nous demandons à ce que l'État rétablisse son autorité de manière pérenne. L'État est là pour assurer la sécurité des personnes et de leurs biens. Ça veut dire que l'État organise ces entités qui ont en charge la traque contre les criminels de manière à ce que cette traque soit au moins permanente. Il ne faut pas attendre seulement quand il y a beaucoup d'enlèvements et puis on commence à placer des checkpoints. On pense que c'est suffisant. mais les voies sur lesquelles il n'y a pas de checkpoint, comme par exemple à Bandal ou du côté de Mongafou, là, mais ils peuvent changer de camp ou ils peuvent se dire, bon, pendant ce temps, on les laisse terminer leur checkpoint. Quand ils vont les lever, ils rentrent encore sur terrain. Donc voilà pourquoi nous nous disons qu'il faudrait qu'on réorganise la mission de la police. Et cette mission est bien mentionnée dans la loi. La police doit assurer sa présence de manière permanente par des patrouilles et par des prises de position à certains endroits qui sont censés être des points chauds. À ces endroits-là, on place des policiers avec des moyens de transport, de locomotion, de sorte que quand il y a des cas de criminalité, ils peuvent facilement arrêter les gens, les embarquer dans un véhicule et les transférer au poste de police où ils doivent être pris en charge. C'est de cette façon-là qu'on combat la criminalité urbaine.
Bien. Alors, Georges Kapiamba, maître Georges, la criminalité, les kidnappings, c'est pas seulement à Kinshasa, au nord Kivu. Je pense que vous avez appris que c'est devenu presque un business dans la partie est du pays où on enlève les enfants à l'école, on enlève les hommes et les femmes. Bon, on les garde quelque part et les malfaiteurs s'arrangent pour appeler les proches, les membres de la famille pour exiger une forte somme d'argent. Sinon, ils vont tuer la personne.
Oui. Mais vous savez que pour combattre tout cela, nous savons que parmi ceux qui opèrent des fois à l'Est, que ce soit à Goma, que ce soit à Butembo, Bukavu, lorsque on vérifie correctement la situation, on se rend compte que des fois ce sont les mêmes personnes qui se déplacent d'un point à un autre.
Bien, comment lutter contre le kidnapping en République démocratique du Congo? On en parle aujourd'hui dans Okapi Service. Nous avons Aline Guy de Kananga et Fariel aussi se trouve dans la même ville. Vous voulez participer à cette émission? Vous avez des témoignages? Vous avez des préoccupations? Eh bien, écrivez-nous à service@radiookapi.net.
À l'occasion des 75 ans des Nations Unies, retrouvez sur les antennes de Radio Okapi l'histoire de l'engagement de la République démocratique du Congo dans le système onusien. L'accompagnement de l'Organisation mondiale dans le processus de développement et de stabilisation de l'RDC. Ensemble avec la famille de l'ONU.
Radio Okapi.
Okapi Service. Jeudi, Daniel Kachama.
Okapi. Comment lutter contre le phénomène kidnapping, les enlèvements en République démocratique du Congo? Guy, vous êtes à Kananga ainsi que Fariel. On commence avec vous, Guy. Bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à ce sujet?
Bon, à ce sujet, moi, j'ai fait mes plaidoyers que notre gouvernement puisse rajeunir les services de sécurité. Vous voyez, nos services de sécurité, la plupart de nos vieux, nos parents qui sont déjà vieillis, ils n'ont pas le temps de travailler juste. Il faut qu'on réagisse ce secteur-là. Le deuxième point, ce sont ces bandits, ceux qui font les enlèvements, là. Ils profitent des environnements coercitifs. C'est ces environnements qui avaient été liés aussi au problème de l'électricité. Alors, quand il est 19, c'est toujours dans la ville de Kinshasa, il s'est passé, nous sommes, vous voyez, nous sommes entrevus, il y a l'obscurité. Là, nous sommes permis de faire ce qu'ils veulent faire, ils ne sont pas prévenus, même en allant dans un lieu public parce qu'il n'y a pas le courant. Et en plus de ça, monsieur le journaliste, ici, au conseil central, nous demandons que, même si les caméras sont qui opèrent toujours dans le même système, ils venaient aux yeux des services de sécurité opérer, puis ça n'a rien sans être inquiété. Notre police, il faut qu'on mette notre police des moyens convenants pour avoir des matériaux, des moyens d'opérer, des systèmes de sécurité.
Merci Guy depuis Kananga. Fariel, vous êtes aussi dans la même ville. Bonjour.
Bonjour Monsieur Jeudi, bonjour à votre invité.
Quelle est votre préoccupation?
Oui Monsieur Jeudi, ces actes vraiment sont insupportables dans notre pays. Et cela aussi se justifie dans le sens où l'État congolais n'arrive pas à sécuriser la population congolaise. Mais pour mettre fin à ces actes Monsieur Jeudi, l'État congolais doit vraiment instruire les autorités militaires ainsi que policières de pouvoir mener une enquête mixte sur terrain à tel fin de traquer ces bandits. Mais une préoccupation, est-ce que ces bandits ne sont-ils pas en complicité avec la police? Parce que la manière dont ces gens-là opèrent, ça prouve vraiment qu'ils sont vraiment en complicité avec la police. Voilà au moins les regrets que moi j'ai ici à Kananga.
Bien, merci. Maître Georges Kapiamba. Maître Georges.
Oui.
Bien, vous avez suivi Guy de Kananga, nous dit qu'il faut, d'après lui, pour lutter contre ces phénomènes de kidnapping, il faut rajeunir les services de sécurité. D'après lui, beaucoup des éléments de la police ont pris de l'âge. Il y a aussi la question de l'obscurité, l'électricité, électrifier les endroits obscurs de la ville. Et Fariel de Kananga nous dit qu'il faut organiser une enquête mixte ou il veut dire des patrouilles mixtes police et l'armée et il se pose la question de savoir s'il n'y a pas de complicité au sein de la police ou de l'armée.
Bon, c'est vrai que il faut rajeunir la police, bref l'ensemble des services de sécurité. Vous savez, depuis qu'il y avait eu le processus de réforme du secteur de sécurité, cette question a été posée. Il fallait procéder au nouveau recrutement. Nous savons qu'il y a eu quand même quelques opérations de recrutement qui ont été menées. Et même pendant que nous faisons cette émission, nous savons que l'armée aussi est en train de recruter. Mais tout ça, c'est bien beau. Mais la question fondamentale, c'est la prise en charge, l'entretien de ces éléments qu'on va recruter. Parce qu'il faut changer aussi leur environnement matériel. Si on continue à recruter même de nouveau des jeunes, mais qu'on ne sait pas prendre en charge comme il se doit, qu'on envoie en patrouille sans recevoir un petit per diem, sans recevoir quelque chose pour manger, mais vous allez toujours les exposer aux mêmes pratiques que nous sommes en train de déplorer aujourd'hui. Nous avons reçu, par exemple, le témoignage d'un couple qui revenait d'une fête de mariage, qui s'est retrouvé devant une colonne des éléments se présentaient comme de la police, alors qu'ils étaient rassurés en se disant « Enfin, nous avons des gens qui peuvent nous accompagner à la maison. » Ils étaient surpris par la suite de se voir être extorqués par ces gens qui n'ont pas hésité à les arrêter, à coller contre eux plusieurs autres motifs pour justifier seulement leurs actes d'extorsion. Donc là, il y a un problème aussi de changement de mentalité sur lesquels il faudrait qu'on travaille au sein de nos forces de sécurité. Et vous savez, nous avons aussi insisté sur la question de collaboration entre les gouvernements et nos villes. L'éclairage public dans nos villes est de la responsabilité des chefs de ville. C'est-à-dire, comme la ville de Kinshasa, c'est l'hôtel des villes. Mais nous constatons que la plupart de nos responsables de ces villes ne prennent pas ça à cœur. Ils attendent tout le temps que les gouvernements viennent le faire. Mais entre-temps, quand vous prenez nos factures d'électricité, chaque abonné de la SNEL, de la SNEL bien sûr, paye un montant forfaitaire pour l'éclairage public. Je crois que ça doit être 20 ou 30 dollars que chacun paye sur les factures. Mais qu'est-ce qu'on fait de cette somme d'argent? Donc cela nous ramène encore à cette problématique de la gouvernance des recettes ou des ressources publiques par nos dirigeants. Parce que si on utilisait correctement ces sommes d'argent, on aurait pu éclairer correctement nos villes et ça allait être un des éléments qui pourrait éloigner les menaces des criminels contre des personnes qui circulent. Enfin, je voudrais rappeler aussi un élément important, parce que quelqu'un l'a soulevé. Il faudrait que le gouvernement de la République rappelle aux membres de l'armée, de la police et des agents et fonctionnaires de l'État l'interdiction leur faite par les lois de se livrer aux activités commerciales, notamment d'être propriétaire des taxis, des taxibus ou des taxis-motos. Parce qu'il a été constaté que dans certains taxis ou taxis-motos, ce sont des enfants, des personnes ou des membres, soit de l'armée ou de la police, qui ont été attrapés et qui se seraient livrés à ce genre d'actes. Et que certains taxis, à la fin de la journée,
on les retrouve généralement même dans des camps militaires ou dans des camps de la police. C'est anormal ce genre d'activité quand elles sont déployées par des personnes contre lesquelles la loi a interdit formellement de se livrer à des activités commerciales.
Bien, nous allons accueillir Wallon et Minance de Lubumbashi. Wallon, bonjour.
Bonjour, bonjour papa.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport aux enlèvements en République démocratique du Congo?
Je peux vous dire qu'ici à Lubumbashi, pour que M. Gilles puisse bien, en tout cas, à cause de quoi des transports en commun, ici à Lubumbashi, c'est fait, en tout cas, c'est fait bien. Seulement, ils ont bien respecté les mesures barrières à cause de quoi de la pandémie.
Bon, on ne parle pas des mesures barrières, on parle des enlèvements dans les taxis appelés Ketch. Je ne sais pas, est-ce qu'à Lubumbashi, vous avez aussi des cas comme ça, des jeunes filles et des femmes qui sont enlevées par des malfaiteurs dans les taxis qui les dépouillent de leur téléphone et de tous les biens?
Oui, maintenant, ici à Lubumbashi, je n'ai jamais vu ça. Souvent, nous supportons souvent ça, mais je n'ai jamais vu que ça, pour que les taximens prennent les filles là pour qu'ils fassent les lavements. Non, ici à Lubumbashi.
D'accord, merci à Lubumbashi, il n'y a pas ce genre de situation. Éminence Mwanda de Lubumbashi, bonjour.
Éminence, oui, bonjour monsieur.
Bonjour
monsieur le journaliste.
Vous êtes aussi à Lubumbashi. Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à ces phénomènes?
Ah oui,
vous êtes plutôt à Kasumbalesa.
Oui, à Kasumbalesa.
D'accord, allez-y.
Oui, ce qui fait à ce que ce mouvement soit remarqué partout, moi je dirais que les services de sécurité ne font pas leur travail conformément à la constitution et à leur déontologie. Et avec cette négligence de leur part, on dirait ils sont aussi inculpés peut-être dans l'affaire. Parce que ici, même à Kasumbalesa, il y avait des dupes parfumées qui enlevaient des enfants. On ne sait pas l'endroit où il allait avec ces enfants-là. Tout ça, c'est dû à la négligence de l'ANR, des services de sécurité et consorts. Et je pense aussi le temps où les hommes des l'IDFS et Jinafek faisaient le patrouille ici à Kasumbalesa. L'insécurité était quand même moins remarquable, mais lorsque les services de sécurité sont rentrés, je pense que c'est du chaos. C'est du chaos, monsieur le journaliste. Mmh. Alors, c'est pour cela qu'on demande seulement à l'État qu'il puisse seulement prendre des responsabilités tous les taxis qui sont parfumés puissent être contrôlés ou bien arrêtés et qu'ils soient encore identifiés par le numéro d'ordre de la ville.
Bien, merci. Maître Massoudi, vous êtes à Kindu. Bonjour.
Oui, bonjour, bonjour messieurs les journalistes, bonjour à tous les auditeurs.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport aux phénomènes enlèvement, kidnapping en RDC?
Oui, par rapport à cette situation, à mon avis, il fallait que le gouvernement s'en passe, qu'il prenne les policiers et qu'il met aux différents ronds-points pour surveiller les gens qui faisaient cette bêtise dans la ville de Kinshasa. Après cela, les gouvernements aussi doivent aussi payer ces policiers-là parce qu'ils sont en train de faire le travail. Ça, c'est un travail qui est difficile parce que ces gens-là menacent beaucoup les habitants qui faisaient leurs activités propres. Maintenant, les gouvernements centrales aussi doivent aussi surveiller et prononcer les lois qui vont amener la paix pour ces gens-là. C'est ce que j'ai préparé.
Bien, merci. Maître Georges, vous avez la parole.
Alors, je voudrais aussi rappeler quelque chose parmi les plus importantes. C'est qu'il faudrait pour la ville de Kinshasa, et nous avons insisté sur ça, il faudrait que le gouvernement renforce la capacité logistique de la société Transco qui assure aujourd'hui les transports des personnes dans la ville de Kinshasa. Il faut renforcer sa capacité logistique pour lui permettre de desservir plusieurs lignes. Mais pour que cela se réalise, le gouvernement doit commencer aussi par asphalter les avenues. Parce qu'il y a des coins aujourd'hui où on ne sait pas accéder à bord d'un véhicule parce que la route est totalement dégradée. C'est seuls les motos qui sont capables d'y pénétrer. Mais malheureusement, il se fait que parmi les motards, les taximens qui utilisent les taxis-motos, il se retrouve qu'il y a beaucoup de criminels. Et donc, il faudrait que ça soit un programme assez important, costaud, qui consiste à asphalter, réhabiliter
les avenues, les voies secondaires dans la ville ou dans toutes les villes pour permettre au moins au transport public de pouvoir desservir facilement. Mais il faut aussi réhabiliter et moderniser les transports par les trains urbains. C'est un moyen de transport qui va sécuriser les déplacements des personnes dans la ville de Kinshasa ou dans d'autres villes où il est possible de l'organiser comme la ville de Lubumbashi. Donc le gouvernement doit penser à cela. Il y a 3-4 ans, on avait vu à Kinshasa qu'on avait commencé à réhabiliter les rails, mais du coup, on a vu que les travaux se sont réalisés et puis par après, les gens ont disparu. Alors que, selon les informations, il y avait l'État ou le gouvernement sud-coréen qui avait donné des moyens au gouvernement congolais pour réhabiliter les moyens de transport urbain par les trains. Il faudrait que ça reprenne, mais qu'on combatte aussi la corruption, le détournement des deniers publics. Parce qu'on peut tout demander aujourd'hui au gouvernement, même si le gouvernement a autant de milliards, si les phénomènes de corruption, de détournement des deniers publics ne sont pas suffisamment efficacement combattus, tout cet argent ne pourra rien servir à rétablir les conditions de protection des citoyens et de leurs biens.
Alors, Maître Georges, une autre question, c'est que ces malfaiteurs ont des taxis qui ont des vitres teintées et dès que la victime est maîtrisée, on vous menace, vous n'avez pas à crier, vous ne faites aucun mouvement. Alors, comment est-ce que la police sera alertée, par exemple, pour savoir qu'il y a quelqu'un qui est en danger quelque part?
Oui, mais c'est un problème de rétablir aussi l'autorité de l'État. Il y a quelques mois, je me rappelle, au début de l'année en cours, le commandant ou le commissaire provincial de la ville de Kinshasa, nous l'avions tous suivi, lancer des appels, mettre en garde tous les propriétaires des taxis qui étaient tentés à vouloir au moins changer leurs vitres. Et il avait même pris la mesure d'imposer à ce qu'on ne puisse plus monter les vitres. Mais le problème, c'est qu'on peut prendre ces mesures, on les annonce, il n'y a pas de suivi pour pouvoir faire exécuter ces mesures, ou ce sont des mesures qui peuvent connaître une application d'une manière passagère, parce qu'au bout d'un mois, de deux mois, vous allez constater que les choses reviennent par le passé. Donc, c'est un problème de réhabiliter, rétablir l'autorité de l'État. Ceux qui ont en charge l'application de toutes ces mesures doivent s'y conformer, doivent s'y appliquer, veiller à ce qu'il ne puisse pas y avoir des failles comme par le passé. C'est ça leur mission. Ils sont payés, entretenus par les contribuables congolais. C'est pour nous donner la sécurité, créer les conditions de sûreté humaine, faciliter les mouvements des personnes et de leurs biens et que les gens ne puissent plus se sentir en insécurité pour, par exemple, aller à une fête et qu'ils ne savent pas rentrer à temps. Aujourd'hui, vous voyez à Kinshasa, quand les gens vont dans des fêtes, sauf ceux qui ont des véhicules, mais ceux qui n'en ont pas n'osent pas rentrer la même nuit. Les gens préfèrent dormir dans le lieu de la fête jusqu'au le petit matin parce que il y a une insécurité qui est telle que si vous osez rentrer à ces heures-là tardives, on va vous dépouiller de tout, jusque même aux chaussures et ceintures. Et donc, il faut que le gouvernement se réveille, que l'autorité de l'État soit rétablie, que ceux qui travaillent pour l'État vraiment, et ils reprennent la conscience professionnelle parce que tous ne pouvons pas faire le même travail et ils ont accepté de servir l'État, mais ils doivent le faire avec beaucoup d'abnégation, mais avec surtout beaucoup de résultats.
Bien, Maître Georges Kapiamba, je rappelle que vous êtes président de l'Association congolaise pour l'accès à la justice, ACAJ en sigle. Merci d'avoir répondu à notre invitation et à la prochaine.
Merci.
Fidèles auditeurs, nous allons à présent, nous mettons ainsi un terme à cette première partie de l'émission Capi Service consacrée à la lutte contre le phénomène kidnapping à Kinshasa et dans d'autres villes du pays. Alors, ne partez pas, nous allons suivre les informations et on se retrouve juste après pour la deuxième partie de cette émission Capi Service New Look.